Et donc nous sommes toujours sur une émission de Sortir du capitalisme consacrée à la Révolution française, lutte de classe, de genre et décoloniale. Et nous sommes toujours avec notre invitée, Caroline Fayol. Et cette fois-ci, après avoir longuement parlé des luttes de classe dans la Révolution française, autour de l'ouvrage de Daniel Guérin, Bourgeois et Bras Nus, nous allons maintenant parler des luttes de genre, de féminisme, au cours de la Révolution française, étant entendu que ces concepts sont utilisés ici comme des catégories d'analyse et non pas comme des concepts contemporains. Mais on prend le parti ici qu'ils sont quand même pertinents à utiliser et qu'on n'est pas toujours obligé d'utiliser les termes d'époque, notamment parce que le concept de genre permet de rappeler que la masculinité et la féminité sont des constructions sociales et le concept de féminisme permet de pointer effectivement le fait que la lutte pour plus d'égalité ou pour l'égalité totale en général entre ces deux groupes sociaux, les hommes et les femmes, c'est pas une invention du 19e ou du 20e siècle, mais c'est un combat qui traverse notamment la Révolution française. Alors peut-être pour commencer, est-ce qu'on peut partir un petit peu des rapports de genre en France pendant la période de la Révolution française, rapidement, simplement pour voir dans quel contexte on s'inscrit, notamment, je pense notamment à tout l'idéal révolutionnaire de la femme comme simplement citoyenne passive, qui finalement est privée de droits politiques, finalement qui se voit assigner une place dans la société qui n'est pas du tout révolutionnaire, qui est en gros de produire de nouveaux citoyens, de les éduquer.
C'est vrai que des particularités de la Révolution française, hein, c'est de très vite avoir émis cette fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et en même temps, ce texte a été évidemment la proclamation de ces principes mis en contradiction toujours avec des réalités de rapports de domination et des rapports de domination de classe, mais aussi coloniaux, comme on le verra rapidement tout à l'heure, mais aussi de hommes-femmes. Donc les femmes vont être, dès le départ de la Révolution, des actrices très importantes du mouvement révolutionnaire, notamment par les femmes du peuple lors des fameuses journées du 5 et 6 octobre 1789, hein, où elles vont aller chercher le roi, le ramener de Versailles à Paris. Donc il y a un rôle clé hein, de ces femmes. Pour autant, même si elles ont été partie prenante de la Révolution, hein, les rapports de domination structuraux entre les sexes hein, vont faire que, même dans une période de révolution, où là, pour le coup, normalement, ces moments structuraux sont déstabilisés, ils vont être déstabilisés parfois, mais quand même, il va y avoir une grande résistance sur la question de l'égalité homme-femme. Enfin, c'est peut-être là où il va y avoir le plus de résistance, d'ailleurs. Alors, du coup, effectivement, il va y avoir rapidement une division sexuée du travail politique, c'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est que on va construire le système représentatif sur une distinction qui est entre citoyen actif et citoyen passif. Et donc ça, c'est CIS hein, qui, dès 89, fait cette distinction. Donc en gros, les citoyens actifs sont ceux qui ont les droits civils et le droit de vote, et les droits politiques. Et les citoyens passifs, c'est ceux qui sont reconnus comme citoyens, hein, mais qui ont, parce qu'ils ont des droits civils, mais qui n'ont pas les droits politiques. Donc parmi ces citoyens passifs, il y a au début de la Révolution française, les plus pauvres, notamment, et les femmes, dans leur majorité, et les domestiques. Les femmes, donc, dès le départ, vont être reléguées dans ce fameux statut de citoyen passif. Alors même qu'elle joue un rôle actif dans les insurrections populaires révolutionnaires qui ont permis les dynamiques révolutionnaires. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il y a tout un système de justification du coup de cette remise en cause de l'égalité dans un régime qui est censé être fondé sur l'égalité. Et donc plein d'argumentaires qui vont fleurir hein, pour essayer de définir quel doit être le rôle de la femme dans une société nouvelle qui éclot de la Révolution. Et donc la Révolution française va vouloir aussi, enfin les révolutionnaires vont vouloir redéfinir qu'est-ce que c'est qu'une bonne féminité, qu'est-ce que c'est qu'une bonne masculinité. Et c'est là où c'est intéressant pour l'histoire du genre, parce qu'on peut historiciser comme ça comment les normes de masculinité, de féminité évoluent au cours du temps. Et les moments révolutionnaires sont intéressants parce que c'est un moment souvent où on va re-questionner ça. On va dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut comme modèle de féminité? Qu'est-ce qu'on veut construire comme femme future et comme homme futur? Et donc là, comme d'habitude, parce qu'on entend révolutionnaire, bah, y a des conflits. C'est-à-dire qu'évidemment, personne n'est d'accord, mais il va y avoir des points de vue qui vont l'emporter sur d'autres. Et donc, parmi ces points de vue majoritaires qui vont l'emporter au début de la Révolution, ça va plus être une vision, effectivement, où on va retrouver la figure de la femme au foyer, une valorisation de la femme au foyer, Alors, on pourrait me dire, bon, bah, c'est traditionnel, c'est toujours, il y a toujours eu ça, etc. En fait, non, parce que déjà, d'une part, les femmes travaillaient largement pendant la Révolution française, comme elles l'ont toujours fait d'ailleurs, elles ont toujours été majoritairement des femmes qui travaillent. Donc, le modèle de la femme au foyer, finalement, c'est un modèle très minoritaire, qui était justement aussi un modèle bourgeois qui, de féminité, qui tentait ici de s'imposer. Mais avec l'idée que les femmes du peuple obligées de travailler, bah, elles étaient forcément pas en adéquation avec ce modèle. Elles étaient forcément un peu reléguées dans une féminité pas bonne, pas un peu légèrement déviante, parce qu'elles ne pouvaient pas accéder à cet idéal de la femme au foyer. Donc il y a cet aspect-là. Et puis d'autre part, en fait, ce modèle de femme au foyer s'est construit aussi contre le modèle aristocratique, qui était largement fantasmé pendant la Révolution française, hein, où il y a eu toute une construction de qu'est-ce que c'était que la femme aristocrate dégénérée. Donc il y a beaucoup de représentations comme ça, d'une femme égoïste, pervertie par des vices, de la richesse, qui ne cherche qu'à ses propres plaisirs, qui est dans la luxure, bien sûr, qui se détourne complètement de ses enfants. Donc c'est pour ça qu'il fait appel aux nourrices, etc., et qui n'est pas ce modèle vertueux de la femme au foyer. Donc on comprend bien que ce modèle de la femme au foyer commence à se formaliser finalement pendant cette période-là, et qui est en opposition, en fait, avec un modèle aristocratique, une nouvelle fois largement fantasmé, et un modèle populaire aussi, de féminité.
Et par rapport à ça, justement, deux femmes qui sont absolument repoussoires, c'est ce que tu appelles les femmes monstres, dont tu parles dans ton article « L'universalisme en conflit », et qui ont un peu, justement, les vices dont tu parlais des femmes aristocrates.
En fait, il y a plusieurs choses, parce que tout d'un coup, va s'instaurer plusieurs critères de bonne féminité. Et ces critères vont évoluer, déjà, d'une part, pendant la période de la Révolution. C'est pas statique. Ce qui est sûr, c'est que la prostituée, elle incarne effectivement une figure d'une féminité déviante qui ne peut pas incarner ce modèle vertueux. Voilà. Donc il y a tout cette exclusion, ce rejet de la figure de la prostituée. Mais pour autant, il y a d'autres figures répulsives. Il y a par exemple toutes les femmes qui cherchent à avoir une activité, par exemple intellectuelle, qui serait une activité dite masculine. Donc, ils vont transgresser une distribution des rôles. C'est par exemple toute la figure de la femme savante, qui est stigmatisée et qui a un repoussoir. Hein. Il faut éduquer les femmes, mais jamais à devenir des femmes savantes. Et il y a aussi ces femmes, dont là je parle dans l'article, qui, elles, sont des féministes avant l'heure, qui vont, elles, refuser aussi cette division des rôles sexués, en prenant part à la vie politique. C'est-à-dire, elles refusent d'être seulement citoyennes passives et qui commentent la vie politique, mais qui vont chercher à véritablement s'engager dans la politique et réclamer des formes d'égalité entre les sexes. Et en réclamant ces formes d'égalité entre les sexes, elles vont donc devenir ce que j'appelle ces fameuses figures monstres, parce que là, pour le coup, je me réfère au discours de l'époque qui les traitait de monstres, hein, tout simplement, parce qu'elles étaient vues comme des femmes qui n'étaient pas vraiment des femmes, puisqu'elles sortaient de leur rôle, mais qu'elles n'atteignaient pas non plus le statut d'homme, donc elles n'étaient ni hommes ni femmes, et elles étaient donc des figures monstrueuses, parce qu'elles transgressaient cette division. Et donc je pense que ce qui est clé, en fait, pour comprendre toutes ces stigmatisations, c'est le concept plus général qui avait été développé par les féministes matérialistes il y a bien, bien d'après, des années 1970 cette fois, hein, qui est la notion de division sexuée du travail. Ça marche pour le travail sexuel, avec la prostitution qui peut être vue comme travail sexuel, mais marginalisée, invisibilisée, et stigmatisée.
Comme chez Paula Tabet, très voilà, bon livre là-dessus.
Voilà, exactement. Grand texte féministe. Et puis, ça marche aussi pour la division du travail entre travail productif et travail reproductif. C'est-à-dire qu'on attend des femmes qu'elles jouent avant tout un travail reproductif, qui n'est pas seulement le fait de faire des enfants, mais c'est aussi s'en occuper et plus généralement s'occuper de toutes les tâches du quotidien qui permettent que la société puisse continuer à se reproduire, en fait. Donc, elles doivent prendre en charge majoritairement ces tâches de la reproduction. Et ce qui, moi, m'a intéressée dans mon livre sur l'éducation et le genre, c'est que j'ai aussi montré que cette division du travail, sexuelle du travail, elle est aussi au fondement du système politique révolutionnaire tel qu'il se met en place. C'est-à-dire que pourquoi les femmes majoritairement vont être considérées comme citoyennes passives, non plus comme, mais pas comme citoyennes actives, c'est parce qu'on estime que la division entre citoyens passifs et actifs doit se calquer sur cette division sexuelle du travail qui est dit naturelle,
La différence des sexes.
Qui est la différence de sexe, mais qui est basée vraiment sur l'activité du quotidien. Qui fait quoi dans le quotidien ? Donc, il y a vraiment la question du travail qui est clé et pas seulement des essences. Et donc, du coup, il y a l'idée, notamment, chose qui revient très fréquemment dans les archives que j'ai analysées, dans les discours que j'ai analysés, c'est l'idée que si les femmes commençaient à faire de la politique ou à être éduquées pour qu'elles puissent en faire plus tard, tout simplement, elles n'allaient plus s'occuper de ces tâches du quotidien, qui permettait de libérer le temps des hommes. Donc il y a vraiment un rapport très matériel à la division sexuée du travail, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de seulement de principes ou d'idées, ou je sais pas quoi. C'est vraiment comment on fait pour organiser le quotidien. Et cette idée que les femmes s'occupent de ces fameuses tâches dévalorisantes, invisibles, pour pouvoir que le citoyen puisse avoir du temps à la fois pour son travail productif et pour son travail de citoyenne.
Oui, justement, là-dessus, c'est intéressant parce que, évidemment, celui qui a théorisé cette espèce de division totale, un petit peu entre sphère privée et sphère publique, la sphère privée dévolue aux femmes et la sphère publique aux hommes, c'est Rousseau notamment. Et ça me fait penser même aussi à Proudhon, dont on a parlé dans une émission avec Francis Dupuy-Déry, qui faisait de la condition du socialisme anarchiste, justement, une espèce de division stricte où les femmes s'occupant finalement de tout, les hommes pourraient aller faire une démocratie directe, vivre en anarchie. Et c'est vrai que cette espèce de division radicale, elle est vraiment au fondement de l'ordre politique républicain, qui est un ordre qui est vraiment masculin. Je parlais de différence des sexes tout à l'heure, parce que en référence à un ouvrage de Thomas Laker, La fabrique du sexe, qui parle un petit peu de la Révolution française, en émettant l'hypothèse que finalement, on a commencé à développer toutes ces considérations sur une anatomie qui serait soi-disant si différente entre les hommes et les femmes, alors que jusque milieu du XVIIIe siècle, on considérait que c'était une anatomie qui était identique, simplement qu'elle ne se matérialisait pas de la même manière, et qu'en gros, il y aurait besoin de renforcer la différence naturelle pour justement concilier ça avec une égalité abstraite. Dire finalement, ok, tous les hommes sont égaux de manière abstraite et conceptuelle, on ne peut plus dire comme dans l'Ancien Régime, les femmes sont subordonnées aux hommes, tout comme les vassaux sont subordonnés aux seigneurs, et qu'il y avait besoin d'une nouvelle légitimation qui passait par une référence à la nature. Mais toi, ce que tu dis, c'est assez intéressant, je ne sais pas si c'est complémentaire ou contradictoire, c'est qu'il y a quand même aussi toujours une justification d'ordre fonctionnel et social à ça.
Oui, alors il y a plusieurs choses là que tu dis qui sont importantes, sur lesquelles aussi je voulais rebondir. En fait, ce qui est compliqué avec Rousseau, c'est que oui, il a théorisé l'idée qu'il y avait une sphère du privé qui était le domaine réservé aux femmes, qu'il y avait ce modèle justement de l'idéal de la femme au foyer qui est notamment dans le personnage de Sophie dans son livre Les Mille, qui est développé. Mais en même temps, c'est beaucoup plus compliqué que ça chez Rousseau, dans le sens où, pour lui, il n'y a pas imperméabilité non plus entre sphère privée et sphère politique. Et pendant la Révolution française, d'ailleurs, c'est la même chose. C'est-à-dire que la Révolution, ça a été une période de politisation des affaires privées. Évidemment, parce que comme tout temps un peu révolutionnaire d'ailleurs, c'est le politique qui prime sur et qui transgresse les sectorisations habituelles. Et c'est pour ça que la figure de la femme au foyer, c'est pas la figure de la femme au foyer telle qu'elle a pu s'élaborer par exemple au 19e siècle, c'est ce que j'ai appelé en référence aux travaux d'Elsa Dorlin la matrice, ce qu'est son travail sur la matrice de la race, c'est la matrice des citoyens. C'est-à-dire que oui, elle n'est pas citoyenne, mais elle doit produire des futurs citoyens. Et dans cette idée qu'elle produit du citoyen, c'est-à-dire que c'est depuis le privé, en fait, depuis la sphère privée, que se construit la sphère du politique. C'est pas l'idée de deux sphères totalement étrangères, comme on peut le voir sur le 19e siècle, par exemple, où il y a beaucoup plus d'étanchéité entre les deux modèles dans les modèles majoritaires. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de rapport de pouvoir là-dedans. Bien sûr qu'il y a un rapport de domination extrême, mais pour autant, il y a un rôle politique des femmes. C'est ça qu'il faut comprendre.
Même chez Rousseau, en fait, finalement.
Oui, c'est chez Rousseau. Non, mais c'est vraiment
même chez Lémile, en fait.
Oui, complètement. Rousseau, il y a cette idée que le citoyen, ça dépend des femmes, en fait. Il n'y a pas de citoyen, il n'y a pas de cité, s'il n'y a pas des femmes vertueuses qui fabriquent des citoyens et qui leur transmettent les principes républicains, etc. Donc il y a cette idée-là déjà d'une part. Et d'autre part, en fait, chez Rousseau, l'idée de... En fait, il y a plusieurs textes de Rousseau, ça dépend de quel texte on choisit, etc. Mais chez Rousseau, et chez les révolutionnaires par la suite, on va retrouver la même tension. C'est qu'il peut avoir la nature au sens physiologique, c'est-à-dire qui va s'appuyer beaucoup sur les textes médicaux, ce que tu te référais à Laker. Et donc là où il y a l'idée, on va trouver une différence biologique, c'est la femme est déterminée par son utérus, choses comme ça. Et en même temps, toute une autre définition de la nature, qui est cette fois-ci une définition politique de la notion de nature, qui renvoie plutôt à un ordre pré-social qui vient légitimer Le nouvel ordre politique, la société nouvelle.
Pour le contrat social.
Pour le contrat social pour Rousseau. Et pendant la Révolution française, il y a cette idée que cette société nouvelle, elle se base sur la nature, mais que la nature correspond justement à un idéal de répartition des activités. Justement, et ça rejoint à cette idée de fonctionnel, et non plus à un modèle purement physiologique, déterministe physiologique. Et c'est pour ça que chez les révolutionnaires, il faut qu'on construise la nature. Il y a toute cette idée-là. Il y a l'idée qu'il faut fabriquer, permettre aux hommes et aux femmes de réapprendre leur nature. C'est-à-dire de retrouver cet élément perdu, dégénéré par l'Ancien Régime et par les pratiques aristocrates, par justement une éducation nouvelle, notamment.
Et en fait, finalement, cette rhétorique révolutionnaire, elle ouvre un peu une brèche. Et c'est pour ça que dans ton texte, tu montres bien comment des féministes comme Théroigne de Méricourt jouent justement sur cette ambiguïté pour dire « Mais nous, en tant que femmes, on va produire les nouveaux citoyens, donc il faut... Pour apprendre, pour enseigner la liberté, pour transmettre la liberté à nos enfants mâles, il faut qu'on nous connaisse nous-mêmes la liberté. » Donc elle joue sur cette espèce de contradiction un petit peu dans le discours révolutionnaire pour dire « bah oui, mais nous aussi on doit être libres, nous aussi on doit être des citoyennes actives ». Ça c'est quelque chose d'assez chronique dans l'histoire du féminisme, hein, jusqu'aux années 70. Cette idée de s'appuyer sur la faille, un petit peu la brèche ouverte dans l'idéologie dominante pour dire « nous aussi en fait on veut l'égalité quoi ».
Oui, tout à fait. En fait, on est face à des discours qui sont des discours sous contrainte. Et s'il n'y avait pas de contrainte, il n'y aurait pas de rapport de domination structurelle, justement. Donc, si on... forcément, leurs paroles... Alors, des fois, elles sont stratégiques, et on en a la preuve parfois qu'on sait qu'elles font des stratégies. Des fois, on sait même pas si c'est forcément pensé de manière stratégique ou si elles-mêmes ont intégré des normes et cherchent à juste jouer un peu avec elles. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme l'exemple que tu donnes, c'est que pour la plupart des femmes de la Révolution française qui ont cherché à faire avancer la cause des femmes, la question de l'égalité, beaucoup d'entre elles ne sont pas allées frontalement dans une transgression radicale, genre par exemple, je veux le droit de vote, comme a pu faire Olympe de Gouges ou Mary Wollstonecraft, qui sont elles des très très minoritaires. La plupart des femmes, pour agir, ont essayé ce que j'appelle de modulation des normes. C'est-à-dire qu'elles vont tenter de redéfinir les normes, les réinterpréter, et trouver, et comme tu dis, des failles pour pouvoir petit à petit en fait proposer des manières où elles peuvent, elles, affirmer leur agentivité, pour le coup, leur capacité d'agir.
Oui, et notamment Théroigne de Méricourt qui va proposer une idée qui est finalement très radicale, celle d'armer les femmes. Donc qui casse un petit peu le monopole masculin sur les armes dont parle Paola Tabet dans son livre « La construction sociale de l'inégalité des sexes », dont on a fait une note de lecture d'ailleurs, comme sur le livre de Thomas Laker. Mais finalement, pour des motifs presque patriotiques, elle est proche des Girondins, donc finalement c'est presque pour la défense nationale en fait, qu'il faut armer les femmes. C'est intéressant, toute cette manière de jouer sur les ambiguïtés un peu de l'idéologie dominante, pour justement... parce que finalement, les phases où des féministes ont vraiment attaqué frontalement le patriarcat, c'est assez rare, quoi. Il y a les années 70, plus récemment, mais...
Il y en a eu quand même. Hein. Mary Wollstonecraft, une Anglaise, mais qui est présente pendant la Révolution française, elle, ce qui est considéré maintenant comme une des grandes pionnières du féminisme occidental, c'est vraiment quelqu'un qui, elle, est plus à la marge de la vie politique en France. Elle est venue, elle a beaucoup observé, elle était intégrée dans des réseaux de sociabilité, mais elle n'était pas dans l'action directe. Mais elle a écrit des livres, et dans ces livres, justement, elle a posé en fait tout un ensemble à la fois de réflexions et de revendications qui vont nourrir complètement les luttes féministes suivantes. Où là, il y a vraiment une attaque justement de la division sexuelle du travail, où il va avoir une remise en cause aussi donc de l'idée que les femmes doivent être exclues de certains domaines du savoir, et puis l'égalité politique entre les sexes. Voilà, il y a des personnages comme Fanny Raoul aussi, qui était, elle, à toute fin de la Révolution, une femme journaliste, qui a écrit un texte très, très, très fort aussi, où elle a vraiment aussi, elle s'est appuyée sur l'idée qu'il y a une contradiction de l'universalisme révolutionnaire. Donc elle rapproche la condition des femmes à la condition des Noirs, pour montrer à chaque fois que dans ces paradoxes, il fallait non pas seulement juste constater ces paradoxes, mais faire en sorte qu'il fallait concrétiser et achever cette promesse universaliste, et non pas seulement dire que c'est un masque qui vient cacher les inégalités. Et donc ça, il y a eu des femmes qui sont allées dans une perspective radicale de remise en cause de ces rapports de domination. Mais c'est des femmes, effectivement, très, très marginales, qui n'ont pas encore fait mouvement, comme on peut voir avec les mouvements féministes, qui, eux, apparaissent vraiment à plutôt la fin du 19e, début 20e siècle, où là, c'est des mouvements de masse.
Oui, non, mais c'est vrai que tu as raison de préciser. Moi aussi, j'ai particulièrement apprécié voilà, la critique de Wollstonecraft, en plus qui s'attaque un petit peu, bon, à la fois à la domination bourgeoise, notamment quand elle dit quel intérêt finalement de remplacer l'aristocratie de naissance par l'aristocratie de la fortune,
Ah
une
oui,
critique de la
totalement.
bourgeoisie, une critique de l'esclavage aussi, c'est une abolitionniste. Et puis une critique du patriarcat assez frontale, où elle propose même, comme tu le dis dans ton article, une éducation pas dégenrée évidemment, mais une éducation qui brouille un petit peu
Oui, elle dit qu'il faut viriliser les filles. Elle part du modèle que la virilité correspond finalement à la liberté. Et que donc, du coup, il faut viriliser les filles.
comme Beauvoir un petit peu.
Voilà, ça peut faire appel à Beauvoir, effectivement. Et donc, du coup, oui, on est vraiment dans l'idée que c'est l'éducation peut être un des. Parce qu'elle était institutrice, et voilà. Et être, selon elle, une condition pour transformer radicalement les identités sexuées. Donc, ça, bien sûr, c'est un élément important. Après, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ces pionnières du féminisme ont à chaque fois été quand même l'objet d'une répression évidemment très très forte. Et c'est ce que j'essaie de montrer aussi dans l'article, c'est une répression qui est à la fois dans les faits, une répression comme Théroigne de Méricourt qui s'effrit des violences physiques, vu qu'elle a eu cette fameuse fessée patriotique, comme on l'appelait à l'époque. Hein, c'était une pratique qui existait notamment aussi contre les religieuses hein, qui ont reçu des fessées patriotiques, c'est-à-dire qu'on les fessait publiquement. Hein, donc c'était une humiliation publique contre les ennemis de la Révolution. Et donc Théroigne de Méricourt a été fessée publiquement par des femmes révolutionnaires qui n'étaient pas du même bord politique qu'elle. Et elle, bon voilà, elle ne s'en est jamais remise et elle a sombré dans la folie peu de temps après. Et c'est vrai qu'il y a dans ces répressions qu'il y a contre ces femmes, il y a toujours aussi une répression qui est sexualisée. C'est-à-dire que même la répression est genrée. Olympe de Gouges, quand elle était sur l'échafaud, on a rappelé justement que c'était une femme monstre, on a insisté sur le côté mi-homme, mi-femme d'Olympe de Gouges. La Palme d'Elders, elle a été aussi accusée d'être avant tout une femme de mauvaise vie, etc., qui multiplie les aventures, etc. Et donc il y a toujours cette idée qu'il fallait les remettre à l'ordre aussi sur le plan sexuel. C'est-à-dire que les montrer qu'elles incarnaient justement des déviances sexuelles et pas seulement des déviances politiques. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup aussi été lié à l'histoire du féminisme, jusqu'à peu en fait. Hein, le féminisme était toujours associé à une forme de déviance sexuelle.
C'est un rappel à l'ordre moral, en fait.
Rapport à l'ordre moral, à l'ordre des mœurs, voilà, avec l'idée que quand on veut brouiller les identités sexuées, on brouille les identités sexuelles aussi. Il y a toute une interaction entre le sexe et la sexualité.
Oui, c'est la grande peur qu'on retrouve dans toutes les pensées antiféministes, finalement, de
Ouais, voilà.
l'indifférenciation.
Oui,
Voilà.
c'est ça, exactement.
Quelles vont être un peu les. Parce qu'il y a quand même une phase législative qui est un petit peu positive, par exemple le divorce en 1792.
Oui, voilà. Effectivement, il y a eu l'octroi de droits civils supplémentaires pendant le moment du divorce, la loi sur le divorce, qui est faite au même moment que la proclamation de la République, donc septembre 92. Il faut savoir que la demande du divorce était quelque chose qui était excessivement importante dans les années 90-91 et qui était souvent reliée à une demande démocratique. C'est-à-dire que c'était l'idée, il faut abolir la féodalité, non pas seulement dans la société, mais dans la famille. Et abolir la féodalité dans le mariage, c'était notamment permis par le divorce. Il faut le comprendre ça parce que sinon, on comprend pas aussi tous les débats par exemple du 19e siècle sur le rétablissement du divorce, etc., où il y avait tout cet enjeu politique derrière de vouloir rétablir aussi la monarchie. Hein, chez Bonald, il faut interdire le divorce et rétablir la monarchie en même temps. Ça va ensemble. Et effectivement, cette loi sur le divorce, ça a été pris comme une avancée pour beaucoup de femmes de l'époque qui réclamaient le divorce. Et ça leur a aussi donné concrètement quelques droits civils importants, qui fait qu'on a parlé même d'égalité des droits civils entre les sexes en septembre 92, au niveau de la gestion des héritages, etc. Des avancées, certes, à mesurer, mais qui était quand même assez importante et qui a donné beaucoup d'espérance à des femmes qui espéraient du coup que la République allait apporter d'autres droits dans la lignée de cette déclaration de divorce. Donc il y a un moment d'ouverture du coup dans ces années 4, dans l'année 92, début 93. On va avoir, bon ça j'avais beaucoup étudié aussi des clubs féminins qui vont tout d'un coup prendre un essor très important dans toutes les villes de France, même aussi dans les campagnes. D'ailleurs, il y a eu un récent livre sur les clubs dans les campagnes. Donc une effervescence avec des sociétés parfois mixtes, parfois non mixtes. Donc il y avait déjà des premiers clubs politiques non mixtes, voilà, où les femmes pouvaient discuter des conditions de vie, etc. J'ai d'ailleurs trouvé des traces, comme par exemple une femme qui s'appelle Laforie, Bonaventure Laforie, qui est une femme qui est inconnue aujourd'hui, qui a totalement été oubliée, qui était une femme des classes populaires, qui a elle-même écrit des textes totalement féministes, revendiquant l'égalité entre les sexes, dans ces petits clubs de province. Voilà, donc il y a eu des paroles qui ont émergé comme ça. Et puis il y a eu un moment de fermeture qui commence à ce moment où, qui a été longtemps dit comme moment au contraire où la révolution est le plus radicale, qui est l'automne 93. Et particulièrement, effectivement, il y a eu ce décret Amar, qui est un moment assez fatidique dans l'histoire des femmes pendant la révolution française. Hein. Amar, qui est en plus une figure très à gauche et qui restera, enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup inspiré des penseurs communistes par la suite. Et donc, ça
en dit long.
Ça en dit long. Et donc, ils ont fait ce décret qui était dans un contexte très particulier, où, en fait, de lutte contre les enragés, dont on parlait tout à l'heure, et notamment la proximité d'un club de femmes qui s'appelle les clubs des citoyennes républicaines révolutionnaires.
Avec Pauline Léon, c'est ça ?
Oui, et qui Claire Lacombe aussi, hein, qui étaient des femmes très engagées politiquement et qui, selon justement la convention, déstabilisaient un peu le jeu politique. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'ils ont décidé d'interdire tous les clubs féminins, avec un discours d'Amar assez retentissant qui rappelle justement la nécessité de faire une division des tâches entre les sexes et que c'est la nature qui l'ordonne et que la révolution doit suivre l'ordre de la nature. On a donc une décision qui est à la fois très circonstanciée et très liée à la conjoncture particulière et en même temps qui va avoir un impact plus général sur la vie politique des femmes qui vont donc ne plus avoir ces lieux spécifiques où pouvait s'élaborer une parole féminine. Et il y a un deuxième coup d'arrêt, parce qu'après, donc, les femmes ont joué un rôle important dans la sans-culotterie parisienne, hein, jusqu'en 1795. Et le directoire a été un moment, le moment où il y a eu la répression du mouvement sans-culotte, hein, notamment après les journées de Prairial en Troyes, donc en 1795, en printemps 1795. Et là, les femmes ont été vues comme particulièrement bout de feu, particulièrement responsables de ces insurrections. Et donc, il y a un décret qui a interdit les femmes à se rassembler à plus de 5 dans la rue, ce qui va aussi s'accompagner de tout un discours stigmatisant les femmes, ce qu'on appelait les tricoteuses, qui seraient ces femmes qui seraient proches de Robespierre, qui seraient pour la terreur, voilà, toute une figure comme ça qui a après animé tout le 19e siècle comme une furie, la furie révolutionnaire.
Et ceci dit, ces tricoteuses, ça faisait référence donc à ces femmes qui étaient au balcon des assemblées révolutionnaires et qui intervenaient de manière parfois véhémente et qui finalement troublaient justement cette séparation public privé, espace public masculin, espace privé féminin dont on parlait tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Alors ça a été étudié par Dominique Godinot qui est donc une des grandes pionnières de l'histoire des femmes pendant la Révolution française dès la fin des années 80. Alors les tricoteuses, c'est un terme un peu bizarre parce que des fois ça renvoyait, c'était une construction surtout post-révolutionnaire aussi, ça renvoyait à des femmes qui étaient sur les guillotines et qui regardaient avec avidité le spectacle de la violence révolutionnaire, mais ça renvoie aussi effectivement à ces femmes qui tricotaient dans les assemblées pour surveiller les représentants. Et ça, c'est très intéressant parce que effectivement ces femmes, en amenant leur tricot, qui est une activité normalement très symbolique de la vie domestique, en les faisant dans le lieu même du pouvoir qui est l'Assemblée nationale, étaient en train justement de brouiller cette fameuse division sexuelle du travail et qui est aussi une division des espaces. C'est une figure très intéressante et je pense qu'il faut garder en tête beaucoup de femmes de la Révolution française, je ne sais pas beaucoup qui ont réclamé le droit de vote directement de manière claire, mais par contre elles ont participé à définir un autre modèle de citoyenneté aussi. Et ça rejoint ce qu'on disait avec Guérin, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie des femmes des classes populaires qui ont défendu un modèle sans culotte de la citoyenneté, c'est-à-dire qu'elles estimaient qu'elles n'avaient pas à déléguer leur part de souveraineté et qu'elles étaient des citoyennes à part entière parce qu'elles faisaient le droit de pétition, parce qu'elles surveillaient les élus, parce qu'elles pouvaient les révoquer, parce qu'elles participaient aux assemblées locales et que pour elles, la citoyenneté, c'était là où ça se faisait et pas dans délégués représentants, qui de toute manière est un moment pas démocratique, mais un moment du système représentatif. Et donc, il y a un modèle alternatif de citoyenneté féminin pendant la Révolution française qui s'émet et qui a été oublié et on ne voit plus si on est uniquement dans le schéma droit de vote, pas droit de vote, comme on l'a été énormément par la suite, parce qu'on a l'impression que l'activité politique se lie uniquement à travers la question du suffrage. Or là, on voit au contraire des pratiques politiques qui étaient inclusives, en fait, beaucoup plus inclusives en tout cas, même s'il ne faut pas idéaliser la vie des sans-culottes entre eux, il y avait tout aussi les rapports de domination, mais au moins des pratiques politiques qui permettaient aux femmes d'exister à part entière. ça permet aussi de faire un petit peu le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure avec Guérin.
La Révolution française, encore une fois, elle est intéressante, encore une fois, comme référence historique, parce qu'on y voit pas mal de choses. Donc déjà, une politisation très importante, d'abord dans des espaces mixtes de politique un peu générale, comme on a eu, par exemple, à partir de 68, qui ensuite, par la montée de ce que toi, tu appelles une conscience de genre, et qui me trouve... Que
je trouve c'est Leni Varikas qui a théorisé cette notion de conscience de genre, voilà, auquel je me réfère, qui est une politiste féministe très, très intéressante.
Enfin, c'est un concept très intéressant, parce qu'effectivement, on voit pendant la Révolution française qu'il y a un événement qui n'était pas spécifique au genre, mais qui, petit à petit, simplement parce que c'était un événement révolutionnaire, provoque une montée de la conscience de genre, et qui provoque voilà, des remises en cause, une montée du féminisme, aussi... la naissance d'une espèce de non-mixité révolutionnaire qui s'oppose à la non-mixité masculine qui, d'ailleurs, elle, est toujours pensée comme allant de soi dans l'histoire de la Révolution française.
Et aujourd'hui.
Et aujourd'hui, évidemment. Tu commences d'ailleurs ton article « Universalisme en conflit » là-dessus, sur le fait que la non-mixité... racisées, des femmes, ou des et encore plus des femmes racisées, est toujours contestée alors que la non-mixité entre hommes blancs et va de soi. On voit encore que finalement la Révolution française est encore une référence historique assez intéressante pour penser aussi des enjeux contemporains, mais même dans le domaine de l'éducation, toi t'as particulièrement travaillé.
C'est vrai que j'ai été la première surprise quand j'ai commencé ma thèse. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de textes de cette période qui n'étaient pas forcément fait par des personnes connues aujourd'hui ou qu'on a retenu, que l'histoire a retenu, mais qui estiment que voilà, on ne naît pas femme, on le devient, et ou on ne naît pas homme, et on le devient, et que c'est aussi l'éducation qui va construire ces identités sexuées, et que du coup, en fait, il n'y a pas de nature. Et ce discours-là, qui est aujourd'hui, maintenant, quand même, qui commence à avoir une audience aussi, un petit peu, enfin, cette lecture constructiviste des sexes, en fait, était déjà là parce qu'il y avait cette idée que la révolution, c'est aussi la croyance de l'action politique et donc la croyance que l'éducation peut tout. Et donc, si elle peut tout, elle peut aussi fabriquer, une nouvelle fois, la différence sexuée ou, au contraire, l'abolir et fabriquer l'égalité.
C'est une belle conclusion de cette partie. Et on va, dans une troisième partie, parler de la Révolution de Saint-Domingue à partir de l'ouvrage de C.L.R. James, Les Jacobins Noirs.
Noirceur en présence dans la pièce, nous est inférieur comme la chienne et la naisse. bon chrétien, j'acquiesce volontiers, j'angoisse. Les os glacés, placés devant ce corps sans grâce. Et ses cuisses sont trop grosses, ses narines embrassent chacune des extrémités de sa pauvre face. Ses fesses sont une énorme masse, conséquence, sa silhouette n'a aucune forme de classe. Sa peau, une carapace de cuir sans souplesse, lèvres si épaisses qu'elles en deviennent grimaces. La pommette est saillante, chers clients, clientes, ne vous arrêtez pas à cette laideur criante. Les jungles de l'Afrique, lointaines et luxuriantes, nous offrent des spécimens de différentes variantes. Leurs femelles sont fertiles et vaillantes, dociles et idiotes, font elles-mêmes leurs paillotes. Les mâles ont côtoyé éléphants et coyotes, nourris de chasse, de pêche et de cueillette. Éloignez quand même vos fillettes. Parfois le sauvage plonge dans la démence en rage, peut réduire un humain en miettes, mais le passage du fouet le ramène au silence. Oui, la nature a flotté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La nature a flotté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La créature ratée. La créature ratée. La créature ratée. Être la créature ratée.